dans le livre de Deutéronome, chapitre 4. Avant de lire ces passages, je pourrais peut-être vous dire que la semaine dernière, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui racontait l'histoire d'un rêve. C'était le témoignage d'un rêve. Quelqu'un a rêvé qu'il est allé au ciel et qu'un ange lui a montré certains endroits, certains secteurs d'activité qui existent là-haut. Ils sont entrés dans une salle où il y avait beaucoup d'anges qui travaillaient, qui s'affairaient à faire beaucoup de choses. Et le guide lui a expliqué que c'était là la réception, l'endroit où étaient reçues toutes les requêtes, toutes les pétitions qui étaient envoyées par des millions de personnes sur cette terre. Il a regardé, il a constaté qu'à cet endroit-là, donc les anges ne s'arrêtaient pas. Ils avaient beaucoup à faire, beaucoup de travail. Les requêtes arrivaient nombreuses tout le temps. Ils sont allés ensuite à la section suivante, à la salle d'emballage et d'envoi, et les anges ne chômaient pas dans cette salle non plus. Il fallait répondre à toutes ces pétitions, il fallait envoyer donc toutes ces bénédictions sur les hommes, et il y avait aussi dans cette salle beaucoup d'activités, beaucoup de travail. À la fin, ils se sont arrêtés dans une section très petite, avec un seul ange, qui était en plus assis. Il n'avait pas beaucoup de travail. Et l'ange lui a expliqué qu'il s'agissait de la section action de grâce, reconnaissance et remerciement. Alors, cette personne qui visitait le ciel dans son rêve, étonné, lui a demandé, mais comment se fait-il que dans les autres sections, il y a beaucoup d'activités, dans celle-ci, l'ange ne fait presque rien. Et le guide répond, c'est triste à dire, mais très peu de personnes qui reçoivent donc les bénédictions sollicitées se souviennent d'envoyer un tout petit mot pour confirmer la réception de telle ou telle bénédiction, un tout petit mot pour remercier ce qu'ils ont reçu. Alors, la personne lui a demandé, mais quelles sont les bénédictions qu'il faut remercier? Et l'ange répond ceci, ce que tu as à manger dans ton assiette, si tu es habillé, si tu as un toit et un lit pour dormir, tu es plus riche que 75% des habitants de la terre. Si tu as des sous en banque, à la maison, dans tes poches, dans ton portefeuille, tu te situes parmi les 8% de gens dans le monde qui l'ont aussi. Si tu as un ordinateur chez toi, tu fais partie de ce 1% de personnes qui le possèdent aussi. Si tu t'es réveillé ce matin en bonne santé, tu es plus béni que des millions de personnes qui se sont levées ce matin avec des graves problèmes de santé et dont beaucoup ne finiront pas la journée. Si tu n'as jamais vécu dans la terreur d'une guerre et la torture, si tu n'as jamais eu faim, tu ne fais pas partie de ces 700 millions de personnes qui connaissent ces choses terribles chaque jour. Si tu peux aller librement dans une église ou dans une synagogue sans avoir peur d'être battu, emprisonné, torturé, tu es béni, car des millions de personnes dans le monde n'ont pas la possibilité de le faire. Si tes parents sont encore en vie et mariés, s'ils vivent encore ensemble, tu es béni, car de nos jours, c'est très rare que les couples restent ensemble pendant toute leur existence. Si tu sais lire, tu ne fais pas partie de ces 2 billions de personnes dans le monde qui ne savent pas lire. Que peux-tu faire? Tout simplement rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Envoie un petit mot au ciel, arrête-toi quelques instants et envoie à ce département d'action de grâce et de remerciement un petit mot pour dire simplement merci. Merci pour ceci, merci pour cela, merci pour tout ce que j'ai, merci pour tout ce que tu me donnes. Le premier passage dans Deutéronome chapitre 4, les versets 9 et 10, nous lisons ceci. Veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin, qui restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie et informes en tes fils et tes petits-fils. En particulier, n'oublie pas ce jour où tu t'es tenu devant l'Éternel, ton Dieu, au mont Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit « Assemble ce peuple devant moi et je lui communiquerai mes paroles, afin qu'il apprenne à me révérer tous les jours de sa vie sur la terre et qu'il enseigne à ses enfants. » Le deuxième passage dans 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1 Timothée 2, 8, où l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. » C'est vrai, c'est le dernier dimanche de l'année. Peut-être qu'après les fêtes de famille, etc., on est un petit peu fatigué. Mais je crois que le dernier dimanche de l'année est propice à faire le bilan de l'année écoulée et à prendre peut-être de bonnes résolutions pour l'année 2010 qui s'annonce. En 2009, nous avons sans doute vécu pas mal de joie, mais aussi sans doute des tristesses, des peines, des victoires, mais aussi des défaites, des conflits, mais peut-être aussi des réconciliations et des pardons accordés, des exaucements, mais aussi sans doute des avertissements et des corrections de la part de Dieu, parce qu'il est notre Père, et comme tout Père qui aime ses enfants, il nous corrige aussi. Des moments sans doute d'émerveillement, mais aussi de tristesse. Mais, comme pour les chrétiens, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas, comme nous rappelle l'apôtre Paul, et comme nous exhortent ces passages que nous venons de lire, nous sommes appelés à nous souvenir, à nous rappeler du chemin parcouru, et surtout à y voir les interventions de Dieu dans nos vies. Moïse le rappelle solennellement au peuple d'Israël avant l'entrée dans la terre promise, et l'apôtre Paul exhorte Timothée à se souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, cette œuvre qu'il a faite en notre faveur, en faveur de l'humanité perdue. Alors permettez-moi de dire tout simplement et très rapidement trois choses à ce sujet. D'abord, se souvenir des interventions de Dieu dans nos vies en 2009, c'est avant tout rendre grâce à Dieu pour la place qui est la sienne dans nos vies. C'est lui rendre grâce pour la place qui lui est due dans nos vies. C'est reconnaître que finalement, nous dépendons de lui. Nous dépendons de lui comme le peuple d'Israël dépendait de Dieu lors de l'exode, la traversée du désert. C'est reconnaître que c'est lui finalement qui dirige nos vies, qu'il est Seigneur sur tous les événements qui jalonnent notre existence ici-bas, que rien n'échappe à sa connaissance. C'est lui rendre la gloire qui lui est due. La deuxième chose que j'aimerais dire ce matin, c'est que se souvenir des actions de Dieu dans nos vies nous permet en fait de fortifier notre foi. De fortifier notre foi pour la suite du chemin que Dieu nous accordera encore ici-bas. Et notamment pour cette nouvelle année qui s'annonce, qui est là devant nous. Lors de l'Exode, le peuple d'Israël devait faire face chaque jour à des nouveaux défis, comme chacun de nous, n'est-ce pas? Or, le rappel des interventions divines, des délivrances et des exaucements devait encourager le peuple à aller de l'avant, à poursuivre sa route, mais avec confiance. C'est ce qu'on voit par exemple dans Actes chapitre 4, à partir du verset 18. Je vais lire ce passage. Il leur interdit formellement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Réponse de Pierre et de Jean, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Pilate, Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce passage nous montre bien que les disciples fortifient leur foi en se rappelant que Dieu est souverain sur tous les événements de leur existence. Que tout ce qui s'est passé lors de la mort de Jésus était finalement le plan de Dieu. C'était Dieu qui l'a voulu ainsi. Ils demandaient alors l'aide de Dieu pour faire face aux défis qui leur est posé et braver même la persécution qui les attendait. Partager avec la communauté ce que nous avons vécu avec Dieu tout au long de cette année aura sans doute pour effet de fortifier la foi des uns et des autres, notre foi, la foi de chacun. Nous avons un Dieu qui est agissant, qui est vivant. Témoignons-le aux autres autour de nous et la foi de chacun sera affermie et fortifiée. La troisième réflexion que j'aimerais laisser avec vous ce matin, c'est que communiquer, témoigner sur les interventions de Dieu dans nos vies aura comme conséquence aussi de faire naître la foi chez ceux qui ne la possèdent pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous dans cette situation ce matin, mais peut-être qu'il y a parmi nous des gens qui se posent des questions sur l'agissement de Dieu dans ce monde, sur sa puissance, sur sa toute-puissance, qui sont en recherche, qui se demandent si ce Dieu qui est prêché ici dans cette église et dans les autres églises est vraiment Dieu crédible. Le passage de Deutéronome que nous avons lu enjoint les Israélites à témoigner à leurs enfants et à leurs petits-enfants de l'action de Dieu au sein du peuple de Dieu lors de l'exode dans le désert, mais aussi à témoigner sur les moments de rébellion contre Dieu et l'importance de la repentance et du pardon accordé par Dieu. Car cela est instructif aussi. Ce n'est pas uniquement lors de notre baptême que nous devons le faire, n'est-ce pas ? De le dire, voilà, notre vie avant était comme ceci, maintenant elle a changé. Mais je pense que nous pouvons le faire chaque jour, quand l'occasion nous est donnée, et aujourd'hui l'occasion nous est donnée de le faire. Si nous avons été corrigés par le Seigneur cette année de 2009, nous pouvons le dire aussi, pour que la foi de ton frère, de notre frère à côté soit fortifiée. Si nous avons reçu l'assurance de son pardon, nous pouvons le dire aussi, n'est-ce pas ? Cela fortifiera le frère à côté. Nous pouvons le dire car nous savons bien que nous sommes tous des pécheurs sauvés, n'est-ce pas, mais des pécheurs, et que nous devons souvent nous tourner vers Dieu pour lui demander pardon. Nous devons souvent nous tourner vers notre frère, notre sœur, pour lui demander pardon. Ça fait partie de notre vie chrétienne, notre existence. Le Seigneur corrige ceux qu'il aime. Et si le Seigneur nous a corrigés, nous pouvons le dire, le témoigner. Un dernier passage, juste pour terminer cette petite réflexion. J'ai pensé à ce psaume 126 où le psalmiste affirme l'impact du témoignage autour du peuple d'Israël chez les autres peuples. Je vais juste lire cette phrase. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Il y a un très beau chant dans le gemme sur ce psaume que nous allons peut-être apprendre bientôt. Oui, le témoignage, l'impact du témoignage chez les autres peuples. Au début de l'Église, l'action évidente de Dieu au sein de l'Église, juste après la Pentecôte, attirait les gens vers l'Église parce que les gens voyaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Les chrétiens témoignaient de ce que le Seigneur faisait dans leur vie. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à ne pas oublier que c'est lui qui a notre vie dans ses mains, à ne pas oublier de ce qu'il fait pour nous jour après jour, ses bénédictions, ses corrections, à ne pas oublier que sa main bénissante repose sur nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à avoir vraiment ce cœur reconnaissant.
Merci Samuel. Et donc la suite est à vous aussi. Et Samuel déjà entame